VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Villon, il est 11h en temps universel. Bienvenue. La Cour pénale internationale doit rendre jeudi son jugement en appel sur les réparations d'$1 million contestées par l'ex-chef de milice congolais Germain Katanga, les jugeant non proportionnel au rôle qu'il a joué dans des attaques en Ituri. La Cour basée à La Haye avait fixé en mars 2017 à $250 symboliques par personne les réparations destinées aux 297 victimes et estimées que M. Katanga était personnellement responsable du paiement d'$1 million pour réparer le préjudice. M. Katanga a interjeté appel de cette ordonnance en réparation. En RDC toujours, une dizaine de mouvements ont appelé à une grève générale pour ce vendredi. Ils entendent protester contre la mort de militants dans ce qu'ils appellent la répression criminelle des marches anti-Kabila. Abdurahmandia.
Pour Gloria Senka, militante du mouvement Lutte pour le changement, une des organisations à l'origine de l'appel, cette journée ville morte vendredi sera en mémoire des manifestants tués. Il s'agit d'honorer les mémoires des héros tombés sur le champ de bataille en livrant l'ultime combat de leur vie, celui de la justice, de la liberté et de la démocratie, a-t-elle dit. Le 25 février, deux personnes ont été tuées par balle en marge des marches organisées par le Comité laïque de coordination CLC. Les autorités parlent de bavure et annoncent que leurs auteurs ont été arrêtés. L'un des policiers a été condamné à la prison à perpétuité à l'issue d'un procès express. La marche du 25 février était la troisième d'une série organisée à l'appel du collectif d'intellectuels proches de l'Église catholique. Ces manifestations ont déjà fait 17 morts d'après l'Église catholique et la mission des Nations Unies en RD Congo.
Le président Joseph Kabila a convoqué aujourd'hui les 7 principaux opérateurs miniers de son pays, la République démocratique du Congo, pour une réunion autour d'une réforme du code minier qui envisage de multiplier par 5 une taxe sur le cobalt. Adopté au Parlement à la fin du mois de janvier, le code minier révisé n'attend plus que sa promulgation par le chef de l'État. Les opérateurs du secteur ont sollicité cette rencontre pour exprimer leurs craintes vis-à-vis face à la révision à la hausse du taux de redevance versé à l'État, selon un spécialiste du secteur. Une épidémie de fièvre de Lassa a fait 110 morts au Nigeria depuis le début de l'année 2018 sur 353 cas confirmés selon un nouveau bilan communiqué mardi par les autorités sanitaires du pays. La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé avait parlé de 72 morts sur 317 cas confirmés. Le virus a été détecté dans 18 des 36 États du Nigeria, mais il a été confirmé en grande partie dans l'État d'Edo, dans le sud du pays, une région endémique du virus, selon le Centre national nigérian de contrôle des épidémies. Une attaque suicide menée par une personne à bicyclette portant une ceinture d'explosifs a fait 3 morts et 18 blessés lundi soir dans la banlieue de Maiduguri, ville du nord du Nigeria. Cette attaque porte la signature des terroristes de Boko Haram, selon un responsable de la milice civile qui aide les forces armées à combattre le groupe islamiste. Première visite du secrétaire d'État américain Rex Tillerson en Afrique. La tournée du chef de la diplomatie américaine va le mener au Tchad, à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et au Nigeria. Bryant Noble, l'un des porte-parole du département d'État, situe les enjeux de ce périple.
Le secrétaire Tillerson, comme vous savez, a invité 37 délégations africaines à Washington novembre passé. Et donc, il a commencé une série de consultations avec ses homologues africains. Et cette visite est la suite de ces discussions. Je voudrais souligner que ce n'est que la première visite en Afrique. Donc, ces 6 pays sont très importants, mais nous savons bien qu'il y en a des autres. Donc, il y aura encore une visite en Afrique, on imagine, pendant l'année. Les États-Unis en Afrique, nous avons 3 priorités. Tout d'abord, la démocratie. Puis, deuxième, développement économique. Et troisième, en général, la sécurité et stabilité. Ces 3 éléments, ils vont ensemble. Et le secrétaire Tillerson, il va discuter tous les 3 dans ses réunions officielles.
Bryant Newbert, porte-parole au département d'État. Le Pentagone a réagi hier à une vidéo diffusée par le groupe État islamique montrant les soldats américains tués dans une embuscade au Niger. Pour le Pentagone, ça démontre la perversion du groupe djihadiste. Bagasikoura.
Le ministère américain de la Défense est informé de la publication de photos et d'une vidéo de propagande sur l'attaque terroriste du 4 octobre au Niger. C'est ce qu'a indiqué le Pentagone dans un communiqué, ajoutant que cette publication montre la perversion de l'ennemi que nous combattons. Cette compilation d'images dure 9 minutes et circule sur les réseaux sociaux depuis le 4 février. La vidéo montre des soldats américains sous le feu des assaillants et les corps ensanglantés d'au moins deux Américains. L'un des soldats est d'ailleurs achevé sous l'œil de la caméra. Le 4 octobre, une cinquantaine de combattants djihadistes équipés d'armes automatiques, de grenades et de mitraillettes avaient tendu une embuscade à un convoi de 12 soldats américains et 30 soldats nigériens près du village de Tongo Tongo au Niger. 4 soldats américains et au moins 5 militaires nigériens ont été tués. L'attaque a été revendiquée par Abu Walid al-Sahraoui, l'émir du groupe État islamique au Sahel.
À Washington, il est 6h06.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le Kremlin a dénoncé mardi des accusations gratuites selon lesquelles le régime de Damas aurait recours aux armes chimiques, assurant que toutes ces armes syriennes avaient été détruites sous contrôle international. Le régime syrien, qui a plusieurs fois démenti utiliser des armes chimiques, a été montré du doigt ces dernières semaines pour des attaques présumées au gaz de chlore. Ici aux États-Unis, le président américain a affirmé lundi qu'il pourrait assister à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem en mai, assurant que les relations entre les États-Unis et Israël n'avaient jamais été aussi bonnes. Les précisions, John Lindon.
Si je peux, j'irai, a affirmé Donald Trump, interrogé en présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur un éventuel déplacement à Jérusalem pour l'ouverture de l'ambassade américaine. Ce transfert est prévu le 14 mai pour coïncider avec le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. « Je suis fier de cette décision », a-t-il ajouté depuis le bureau ovale, évoquant son choix en dépit de multiples mises en garde, de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État hébreu et d'y transférer l'ambassade des États-Unis actuellement à Tel Aviv. Interrogé sur le processus de paix israélo-palestinien, le locataire de la Maison-Blanche est resté évasif sur le calendrier des présentations de la proposition américaine, mais a réaffirmé sa conviction que la paix était possible, même s'il s'agit de l'accord le plus difficile qui soit. « Nous y travaillons très dur. Je pense que nous avons une très bonne chance », a-t-il affirmé. Assis à ses côtés, M. Netanyahou a une nouvelle fois loué la décision de M. Trump sur Jérusalem et souligné combien, à ses yeux, la principale menace pesant sur le Proche-Orient était celle de l'Iran.
Le sort de centaines de milliers de Dreamers était suspendu hier face à l'impasse au Congrès américain où les élus ont laissé expirer le délai fixé pour trancher sur le statut de ces immigrés arrivés sans papier aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants. Environ 200 d'entre eux se sont rassemblés devant le Capitole à Washington pour réclamer une loi qui mettrait définitivement ces jeunes à l'abri de l'expulsion et leur offrirait une voie vers la naturalisation, comme l'a proposé le président Donald Trump, après avoir abrogé un décret de l'ère Obama qui leur offrait un permis de séjour provisoire. Mais cette abrogation est contestée en justice et la Cour suprême a refusé de se saisir du dossier avant que les tribunaux ne se prononcent sur le fond. Plusieurs autres manifestations ont eu lieu à New York et dans d'autres villes des États-Unis. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a discuté d'un possible sommet inter-coréen avec les émissaires du président sud-coréen Moon Jae-in en visite à Pyongyang. Ont annoncé aujourd'hui les deux camps. Les discussions entre M. Kim et les émissaires sud-coréens ont duré plus de 4 heures au siège du Parti des travailleurs à Pyongyang. Et pour terminer, le président du Parlement de Catalogne a convoqué pour le 12 mars le débat d'investiture d'un nouveau président pour la région, avec pour seul candidat l'indépendantiste Jordi Sanchez. Mais la tenue effective de cette séance est incertaine. M. Jordi en détention provisoire près de Madrid, doit en effet obtenir, pour pouvoir aller défendre son programme devant les députés, une improbable autorisation du juge chargé de l'enquête pour sédition le visant. Le président destitué Carles Puigdemont, poursuivi en Espagne pour sédition et rébellion, a proposé Jordi Sanchez comme candidat jeudi après avoir retiré sa propre candidature devant les obstacles judiciaires à sa réélection. Fin de ce journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.